une œuvre qui est tellement, tellement étrange et tellement riche que, en fait, bon, elle n'a pas trouvé à se faire publier. Et c'est uniquement après sa mort que c'est son mari, son dernier mari, qui a réussi à récupérer toute l'œuvre et à la faire publier. Alors le livre le plus célèbre d'elle, c'est bien sûr ce foisonnant roman passionnant qui s'appelle « L'art de la joie » et qu'il faut vraiment lire. Mais ce qu'il y a de bien avec les éditions du Tripode, c'est qu'ils ne se contentent pas de ce succès qu'est l'art de la joie. Et ils ont décidé de republier l'œuvre intégrale de Goliarda Sapienza. Et c'est comme ça qu'on en arrive à découvrir ces destins piégés qui sont très différents du roman L'art de la joie. Apparemment, ce sont des nouvelles qui ont été rédigées dans les années 50, c'est-à-dire avant qu'elle écrive le roman. Mais en tout cas, ces textes courts ont une grande fulgurance, sont particulièrement impressionnants. Et je vous propose d'en découvrir un d'ici quelques instants.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le meurt. Soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qui. Sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin. Ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins.
J'ai très peur de mourir. Depuis toujours. Ma mère disait que petite déjà, je voulais dormir avec la lumière allumée, de peur que la mort ne vienne me prendre dans le noir. Aujourd'hui encore, je dors avec la lumière allumée. Mais j'ai peur quand même. Quand je m'éveille, je crains de n'être pas moi. Et je me vois immobile et hébétée comme Carmela quand elle a eu cette attaque. C'est pour ça que j'essaye de dormir le moins possible. Même là, j'ai très sommeil, mes yeux se ferment, mais je ne dormirai pas. Je suis sûre que si je dors maintenant, je ne me réveillerai plus. Et j'aime tellement regarder dehors le matin. Je ne dormirai pas. Je peux aller sur le balcon et attendre l'aube. Heureusement que la fenêtre est grande et la lumière électrique de ma chambre très forte. Dehors, il fait si noir que, à part les feux de circulation, on ne distingue rien. Tout n'est qu'un ciel obscur. Je n'ai jamais vu une nuit aussi sombre, mais peut-être est-ce du brouillard. Pourtant, ce n'est pas l'hiver. Je ne dormirai pas. Je vais rester ici, assis sur le parapet, et regarder la lumière à l'intérieur de la chambre. On dirait que c'est le jour. Un magnifique jour, ensoleillé. Je ne m'étendrai pas sur le lit. Je préfère me laisser aller en arrière, comme ça. On glisse si bien avec toutes ces lumières dans les yeux. Et puis ça va vite. 4 étages, en quelques secondes. Comme ça, je ne dormirai pas. Et personne ne m'éveillera. Quand elle viendra, elle me trouvera toute raide. Et ce ne sera pas elle qui m'aura surprise dans le sommeil. Voilà, c'était donc un extrait de Destin piégé de Goliarda Sapienza. C'est paru aux éditions du Tripode et je vous le recommande. C'est une porte d'entrée pour découvrir cet univers si particulier. Et puis laissez-vous tenter et découvrez l'art de la joie. On arrive à la fin de cette émission Idéo et Débat. On se retrouve dans 2 semaines avec au programme 2 auteurs, Jérémy Lefebvre et Laurent Petit-Mangin. Mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et portez-vous bien.
Consacrer un moment à l'observation fine d'une mouche sur la toile cirée de la... Finir un mot croisé. Regonfler le vélo, passer par le cimetière. Au moment le plus chaud, descendre à la rivière. Jouer les yeux fermés, à compter silencieux, à la vitesse exacte où tourne la trotteuse. Dans l'ordre alphabétique, se réciter par cœur. Tous les départements espérant qu'une erreur chatouillera votre esprit pour toute la journée. Savoir qu'à tout instant cette sérénité pourrait bien basculer en profond désespoir. Éviter de penser à l'arrivée du soir et finir par songer que tu aurais aimé partager avec moi ce jour d'amour chômé.
89.4, Radio Libertaire, et nous sommes au Grand Soir du Mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors, ce soir, nous recevons Emmanuel Bobatti, au sujet de son livre « Transfuge de sexe », paru il y a peu de temps aux éditions de La Découverte. Alors, au-delà des fantasmes et des représentations sensationnalistes, qui sont vraiment les trans ? Ces personnes qui s'affranchissent de leur assignation d'origine pour migrer vers un autre genre. Dans un livre passionnant et clair, donc « Transfuge de sexe », Emmanuel Bobatti retrace les trajectoires multiples et complexes des trans. Ces trajectoires varient en fonction du sexe de naissance, du statut social, de l'environnement familial, du capital culturel, etc. Mais aussi variées soient-elles, elles restent soumises à la persistance de la domination masculine. Alors Emmanuel, première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter ? Voilà, tu es sociologue, voilà, mais dis-nous quelques...
Alors je suis, bonjour, merci d'abord de me recevoir. Je suis donc sociologue, chargé de recherche au CNRS et je travaille donc principalement sur le genre et la sexualité et plus précisément sur la possibilité de changer de genre, de migrer du point de vue du genre, de vivre une mobilité finalement sociale de genre au cours de la vie. Et je travaille également sur la diversité de genre, sur comment repenser le genre au-delà de la binarité femme-homme.
Bonsoir Emmanuel. Une petite première question. Tu utilises le mot transfuge dans le titre de ton ouvrage. À l'origine, ce mot est emprunté au langage militaire ou politique. Le transfuge désigne le déserteur, celui qui passe dans le camp ennemi, ou encore celui qui abandonne son parti pour rallier le parti adverse. Une personne donc qui trahit une cause. Pourquoi avoir choisi ce terme ?
Alors ce terme, je l'ai choisi non pas dans son sens militaire, comme ça a été défini, mais plutôt dans son acception sociologique. C'est un terme qui a été l'objet de beaucoup de travaux en sociologie, des travaux à la base sur les classes sociales, et qui ont pensé en fait la possibilité de changer de classe sociale au cours de la vie. Par exemple, à propos des personnes qui naissent et grandissent dans un milieu social et qui, au fil de leur vie, par exemple, peuvent vivre une ascension sociale en faisant de longues études, etc. Et de fait, changer de milieu social avec tout ce que ça peut avoir de tensions internes, de contradictions et de difficultés, en fait, à gérer pour les personnes qui sont concernées. Et en commençant à travailler sur les trans, j'ai fait le constat que finalement, la littérature sur les changements de sexe abordait toujours la question sous l'angle de l'identité. C'est une identité individuelle, personnelle, c'est comment on se sent du point de vue du genre. Or, moi je considère, enfin c'est l'angle que j'ai choisi, que c'est aussi une expérience de mobilité sociale, de mobilité sociale de sexe ou de genre, une expérience qui peut être analysée finalement avec ce prisme-là, parce que évidemment les personnes trans en fait entreprennent de quitter le sexe qui leur a été assigné à la naissance et d'en changer sans forcément qu'il y ait une destination bien précise, hein, c'est important de le préciser, mais en tout cas c'est un prisme que j'ai voulu mobiliser du point de vue cette fois-ci non pas des classes sociales mais du genre, ce qui n'est d'ailleurs pas indépendant.
D'accord. Alors, une question très simple, est-ce qu'on peut évaluer le pourcentage de la population trans dans la population générale ? Est-ce qu'on a une idée de ça ?
Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été fait, parce que c'est très compliqué de définir les frontières de cette population, de la circonscrire. Il y a beaucoup de façons différentes de vivre une transition, plus ou moins médicalisée, par exemple. Et du coup, c'est très compliqué de formuler clairement des chiffres. Mais il y a des gens qui y travaillent actuellement.
D'accord.
Pour essayer d'inclure une diversité de parcours et de chiffrer un petit peu tout ça.
Alors, tu as choisi en fait un mot très court, dans ton travail, tu as utilisé le mot trans. Et la question que je me posais, c'est pourquoi avoir choisi le mot trans plutôt que transidentité, ou transsexualité, ou transgenre ?
Alors ça, c'est un choix un petit peu pragmatique, finalement, que j'ai fait, parce que ces autres termes, transsexuel, transgenre, transidentité, peuvent être un peu chargés de sens. Transsexuel, par exemple, c'est un terme d'origine médicale qui a émergé dans les années 50, qui désignait au départ uniquement les personnes qui se faisaient opérer. Transgenre, c'est un terme qui, au départ, dans les années 70, désignait les personnes qui ne modifiaient pas leur corps, mais qui changeait de genre quand même. Transidentité, c'est un terme qui peut aussi être parfois critiqué au motif que le terme d'identité peut tendre à naturaliser un petit peu, à essentialiser ce que c'est que d'être trans. Donc j'ai préféré utiliser le seul préfixe trans pour que tout le monde puisse être inclus dans cette catégorie.
D'accord. Alors, une autre question, moi j'ai pas mal travaillé sur les trans, j'ai une longue carrière de journaliste, j'ai l'impression, et donc il y a quelques décennies, on avait l'impression qu'il y avait, en tout cas médiatiquement, beaucoup plus de M to F, à savoir de masculin vers le féminin. On va peut-être à partir de maintenant utiliser l'acronyme F to M ou M to F. Donc, on a l'impression que c'est ce qui tenait le devant, en tout cas de la scène publique, les hommes qui devenaient des femmes. Maintenant, j'ai l'impression, alors peut-être fausse, mais j'ai l'impression qu'il y a davantage de trans F to M, à savoir de femmes qui transitionnent vers le masculin. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, encore une fois, c'est très compliqué de chiffrer, mais à mon sens, on ne peut pas dire qu'il y en a plus ou moins. Et d'ailleurs, il n'y avait pas plus de femmes trans avant, c'est simplement que les hommes trans étaient très peu visibles, étaient complètement méconnus et peu pris en charge médicalement déjà. Et par ailleurs, ils n'avaient aucune visibilité sociale, médicale. Ils sont complètement absents, par exemple, des textes médicaux et scientifiques du siècle dernier. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas visibles et donc peu de gens connaissaient leur existence. Et c'est un peu la même chose pour... il y a une représentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que maintenant, il y a plus d'hommes trans que de femmes trans, mais c'est simplement que leur visibilité évolue très fortement ces dernières années et évolue notamment avec les mobilisations collectives des trans depuis les années 90-2000 qui ont connu un essor assez phénoménal en France notamment. Et de ce fait, les hommes trans, qui sont donc particulièrement investis dans ces mobilisations puisqu'ils n'ont été visibles nulle part ailleurs, c'est les premiers espaces qui ont reconnu leur existence finalement, et leur visibilité dans l'engagement, dans le militantisme, peut donner l'impression qu'ils sont plus nombreux, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas.
D'accord.
Dans ton travail, tu as vraiment rencontré de très nombreux trans, en fait. Hein, c'est un travail de sociologie vraiment classique. Et ce que tu mets en évidence dans ton travail, c'est que, donc, ce que tu soulignes dans ce travail, c'est les différences fortes, les inégalités profondes entre la situation des femmes qui transitent vers le masculin et des hommes qui transitent vers le féminin. Pour les hommes qui transitent vers le féminin, tu parles de déclassement, et pour les hommes qui transitent vers le masculin...
Les femmes qui transitent vers le masculin.
Les femmes qui transitent vers le masculin, pardon... Une promotion, une ascension sociale, gagner des privilèges. Il semble donc qu'il est beaucoup plus difficile d'être trans femme que trans homme. Pourquoi, en fait ?
Alors, là encore, c'est compliqué de parler en des termes quantitatifs de plus ou moins difficiles, je dirais. C'est simplement que ce sont des expériences qui sont différentes, puisque la transition, effectivement, prend différents visages selon, selon le genre, selon l'âge, selon la génération, selon la classe, etc. Donc l'idée, c'est simplement de montrer en quoi ces deux versants de la mobilité sociale de sexe, eh bien donne lieu à des expériences et des obstacles et des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Ce qui est important de dire à ce propos, c'est que, encore une fois, on peut avoir l'impression effectivement que le déclassement dans l'absolu, c'est une situation, c'est la situation la pire, voilà, etc. Mais ce qui est important de dire, c'est que les personnes ne le vivent pas forcément comme ça. En fait, faut toujours faire attention, effectivement, en tant que sociologue, on a tendance à plaquer un petit peu des notions, des concepts, en l'occurrence celui de mobilité, celui d'ascension, de déclassement, sur les expériences des individus, mais que elles et eux ne le vivent pas forcément comme tel. Donc ça, c'est important de le rappeler. Mais en tout cas, si on regarde, moi, ce qui m'intéressait, c'est beaucoup les temporalités des trajectoires et voilà, regarder un peu ce qui se passe avant la transition, pendant, après, etc. Et c'est vrai qu'on peut constater, par exemple, dans les parcours de femmes trans, que dès les premiers signes de féminisation, eh bien, il y a une sanction sociale assez immédiate hein, qui s'exerce, qui s'abat sur elle, avec violence généralement, etc. Puisque il semblerait que, au regard principalement des hommes, le fait de se féminiser soit un déclassement tout à fait impensable. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans le champ des possibles, qui doit être sanctionné au regard de beaucoup d'hommes parce que quitter la classe dominante, c'est interdit. Alors que pour les hommes trans, en début de transition, on n'observe pas le même phénomène. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennui. Il y en a, mais plus tard. Il y a des violences qui peuvent ressembler beaucoup à celles que subissent les femmes trans au début de transition, mais plus tard, si jamais leur transition est démasquée par d'autres hommes qui sont désormais leurs pères. L'idée qu'une personne parmi eux dans l'entre-soi masculin puisse avoir été une femme, que du coup une part de socialisation féminine viendrait s'immiscer dans l'entre-soi dominant chez les hommes, eh bien ça peut faire l'objet de sanctions très sévères également chez les hommes trans.
Mais tu précises en ce qui concerne la différence donc entre les parcours de femmes trans et d'hommes trans, par exemple que les femmes sont plus médicalisées que les hommes trans, qu'il y a apparemment quand même une prise en charge médicale, chirurgicale, plus importante que pour les hommes trans.
Alors ça, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Je vais reformuler.
D'accord.
Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, dans l'histoire de la médecine de la transition, de la clinique de la transition, disons, dans les pays occidentaux du Nord, faut bien situer, c'est un travail qui est réalisé en France, eh bien, on constate que, effectivement, dans tous les textes, dans la prise en charge, etc., dans toutes les traces, les archives qu'on peut trouver là-dessus, eh bien, les médecins se sont intéressés avant tout aux femmes trans, au corps des femmes trans, qui s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue de médicalisation des corps des femmes en général. Il faut bien dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre aux femmes trans, c'est quelque chose qui est propre aux femmes, en fait. Le fait que les femmes sont considérées comme, pour caricaturer, comme des corps par défaut plus fragiles, malades, et qu'il faudrait donc prendre en charge davantage. Cette prise en charge des femmes trans, elle s'inscrit un peu dans cette ligne-là, au cours du XXe siècle, et c'est vrai que les hommes trans sont très très peu présent dans ces textes scientifiques et médicaux. On peut le voir très facilement en regardant sur des bases de données scientifiques, et aussi dans la littérature scientifique en général, au-delà de ça. Donc voilà, c'est pas que les hommes trans, si on regarde par exemple les hommes trans qui prennent des hormones ou qui font des opérations, c'est pas foncièrement différent des femmes trans aujourd'hui. Par contre, il y a cette histoire difficile effectivement de la prise en compte des transitions vers le masculin en médecine.
Alors, il y a une autre chose que tu précises dans ton livre, donc pour faire une distinction entre les parcours de femmes trans et d'hommes trans, tu écris, tu me dis si j'ai bien compris, que le parcours des hommes trans concerne davantage la subversion et l'approche queer que le parcours des femmes trans. Est-ce que tu peux expliquer ?
Alors là encore, je vais peut-être. En fait, c'est pas forcément quelque chose que moi je dis. Moi, je oui. Le pense pas. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que je viens de le dire. Du coup, les femmes trans sont beaucoup plus présentes dans la littérature médicale et scientifique. En revanche, si on regarde spécifiquement les études queer en sciences humaines et sociales, eh bien là, ce sont au contraire les hommes trans qu'on trouve le plus. Voilà, en proportion. Donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire finalement, d'une certaine manière, que la subversion de l'ordre sexuel et de genre porté par les approches queer, eh bien, a été avant tout attribué d'une certaine manière, lu à travers en tout cas le cas préférentiellement des hommes trans, des transmasculinités. Ce qui peut laisser à penser, à tort, que la subversion du genre et de la sexualité est une affaire masculine. Ce que ça n'est, à mon avis, absolument pas, évidemment. Et c'est quelque chose qui a été pointé notamment par une théoricienne trans, hein, qui est elle chercheuse en biologie, hein, bon, à la base, mais qui a écrit aussi en sciences humaines et sociales, qui s'appelle Julia Serrano. C'est elle qui a pointé pour la première fois cette asymétrie en études queer entre le traitement des transitions féminines et masculines.
Mais comment on explique cette asymétrie ?
Eh bien, moi, je pense que c'est une hypothèse. Hein. Je ne le sais pas, la cause, mais en tout cas, on peut l'interpréter, à mon avis. Une des manières de l'interpréter, c'est peut-être une façon aussi de se rassurer, puisque les études queer, ce sont des études féministes, de se rassurer sur le fait que les hommes trans ne deviennent pas des hommes comme les autres, que ce sont bien justement des hommes subversifs, puisque ça serait peut-être un petit peu angoissant comme perspective en études féministes
d'imaginer qu'ils rejoindraient le camp.
Voilà. Parce que en réalité, c'est ça l'intérêt de penser en termes de mobilité sociale aussi, c'est de montrer que une trajectoire de mobilité, c'est une trajectoire de mobilité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui seraient nées comme ça et qui seraient restées là où elles sont nées. En fait, c'est ça l'intérêt aussi de la mobilité, c'est de prendre en compte les différentes expériences au fil de la vie et les changements qui peuvent advenir.
Dans ton livre, tu croises différentes variables, les classes sociales, le capital culturel et financier, l'âge, l'origine, etc. Et tu revendiques le choix de la nécessité pour comprendre le phénomène trans, si on peut parler de phénomène, pardon, c'est un peu... la nécessité de l'analyse intersectionnelle. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est parti au départ d'un ancrage féministe, hein, puisque moi je viens des études féministes, la sociologie du genre et la sociologie féministe. C'est parti du constat que, en fait, les trans dans la littérature scientifique tendent assez souvent à être homogénéisés, à être considérés, comme un groupe, sans forcément aller voir ce qui se passe en termes de pluralité, de diversité dans ce groupe. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les études sur les femmes, puisque c'est une critique qui est portée depuis longtemps maintenant par les études féministes, et notamment, par exemple, par le Black Feminism, de dire que, toutes les expériences de la domination masculine ne se ressemblent pas. Toutes les femmes, bien sûr, ne se ressemblent pas. En fonction des appartenances, de classe, de race, d'âge, de génération, que la domination masculine n'est pas vécue de la même manière par toutes les femmes. Et donc, c'était un petit peu cet objectif-là, de dire tous les parcours trans ne se ressemblent pas, les trans ne sont jamais que des trans. Et la transition, elle peut prendre plein de visages différents selon les appartenances de genre, le sens de la mobilité, de classe, bien sûr, d'âge, de race. De
oui, génération. C'est ça, ils s'inscrivent dans une réalité sociologique.
Voilà.
Et dans ton livre, tu décris à la louche trois grandes catégories de parcours trans: les conformes, les stratèges et les non-binaires. Est-ce que tu peux définir chacune de ces catégories, ce qu'elles recouvrent ? Oui.
Alors en fait, ce qui est d'abord important de dire par rapport à ça, c'est que ça, c'est un modèle statistique qui a donné... Ça peut, parce qu'il peut sembler un petit peu... un petit peu raide quand même, parce que voilà, de catégoriser les gens en trois groupes, c'est quand même voilà. Donc c'est important de dire que ça, c'est un modèle statistique d'espace social, en fait. Hein. J'ai fait une tentative pour essayer de modéliser un espace social, toujours dans une transition de sociologie assez classique, finalement, hein, à la manière des sociologues des classes sociales, entre autres Pierre Bourdieu, bien sûr, qui ont pensé l'espace social d'une manière moins binaire que ce à quoi on était habitué. L'idée, c'était de dire, ben voilà, il n'y a pas que les bourgeois, les prolétaires, les classes sociales, c'est compliqué, il y a différents capitaux, en fait, il y a différentes fractions de classe, différents pôles, et il y a une méthode d'analyse statistique qui permet de cartographier un espace social, comme ça, en 3D, et de débinariser un petit peu, de ne pas rester sur juste ascension des classements, hommes, femmes, etc. Et donc, c'est cette méthode que j'ai utilisée, et trois grands pôles d'individus sont apparus. Donc ça peut paraître caricatural, bien sûr, personne ne correspond à ces trois catégories, mais c'est un modèle. Bon, ça permet de, ça aide à analyser. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que effectivement, il y a un certain nombre de personnes trans qui vont avoir tendance à se dire soit homme, soit femme, donc rester dans les catégories établies, se faire beaucoup opérer, avoir beaucoup recours aux modifications corporelles, changer d'état civil, de sexe à l'état civil. Et ce sont des personnes qu'on trouve pas trop dans les réseaux trans, dans le militantisme. C'est des personnes qui ne sont pas forcément engagés. Donc ça, c'est un premier groupe.
C'est ce que tu appelles les conformes.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est conforme un petit peu au code de genre établi, on va dire. Mm-hmm. Voilà. Les codes majoritaires, dominants. Quoi. Bon. Ensuite, j'ai trouvé un autre groupe plutôt assez différent de celui-là. Donc je l'ai appelé les non-binaires, qui est un groupe qui regroupe des personnes qui vont avoir tendance à se dire quand même assez souvent autre chose que homme ou femme, hein, qui vont avoir beaucoup moins recours aux modifications corporelles, aux changements de sexe à l'état civil. Et par contre, c'est un groupe de personnes qui est relativement engagé, plus qui déclare plus militer, qui est présent dans les espaces trans, les espaces militants, etc. Des personnes qui vont un peu essayer de transgresser un peu l'ordre établi du point de vue du genre. Et j'ai enfin trouvé un autre pôle d'individus assez important qui a une approche plutôt, je l'ai appelée stratégique, même si c'est pas un terme idéal, mais qui va avoir tendance à se dire plutôt homme ou femme, mais moins que le premier groupe, avoir recours aux modifications corporelles, aux changements d'état civil, mais moins que le premier, et qui par contre fréquente beaucoup les milieux associatifs, etc., mais ne déclare pas militer. Et donc, c'est des personnes qui vont plutôt aller chercher des ressources, en fait, dans les espaces collectifs, communautaires, pour arriver, en fait, souvent à s'en sortir, à avoir les codes pour s'en sortir face aux médecins, face aux juges, face aux psychiatres, puisque les changements de sexe sont psychiatrisés encore, dans les démarches administratives, etc., pour arriver à performer un peu les codes de l'ordre établi du point de vue.
À jouer ce qu'on attend d'eux pour avoir une vie plus facile, quoi.
Et qu'ils apprennent à le faire dans les espaces communautaires auprès de leur père. Donc c'est un groupe qui essaye de s'en sortir comme ça.
D'accord, merci.
See that wow. Yes. Narcissity at Wow.
C'est la Wow. 89.4 Radio Libertaire, et nous sommes donc au grand soir du mardi. L'émission du groupe Libertaire La Rue, et on reçoit Emmanuel Beaubati à propos de son livre Transfuge de sexe, paru aux éditions La Découverte. Alors Emmanuel, tu consacres aussi une partie de ton étude sociologique à l'orientation sexuelle des trans hommes et femmes avant et après leur transition. Est-ce que, par exemple, tu écris, tu me dis si je dis pas de bêtises, qu'une assez forte proportion de F2M, donc d'hommes trans, étaient gwyn avant leur transition. Ben voilà. Est-ce que tu peux développer cet aspect ?
Oui, bien sûr. Moi, je fais partie des sociologues qui pensent que c'est compliqué de penser le genre sans la sexualité. Et inversement. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à analyser aussi les parcours sexuels des personnes trans avant, pendant, après la transition, si on peut dire, parce que c'est compliqué de dire avant, après, c'est pas forcément. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir les évolutions, en fait, de ces orientations sexuelles et intimes. Et c'est quelque chose qui est pas simple, parce qu'il faut savoir que c'est assez peu traité dans la littérature, parce que beaucoup de personnes souhaitent ne pas mélanger le genre et la sexualité pour les trans, parce qu'il y a toute une histoire en sexologie qui a attribué la volonté de changer de sexe ou à des questions sexuelles et notamment de perversion sexuelle, etc. Donc c'est un sujet un peu délicat, donc il faut faire attention. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment en fait les transitions de genre passaient par la sexualité, comment la sexualité avait le pouvoir de faire et de défaire le genre. Parce que c'est ça, vraiment. C'est qu'avant la transition, c'est déjà quelque chose qui est en lien avec la future transition, pendant aussi, et puis ensuite aussi. Donc voilà. Et donc, ce qu'on constate, pour reprendre l'exemple du coup des hommes trans avant la transition, effectivement, on constate que une très grande majorité, la plupart en fait, hein, c'est pas tout le monde, mais c'est la plupart des hommes trans ont effectivement été lesbiennes, ont un passé lesbien, même si ils se disaient pas forcément lesbiennes, mais en tout cas ont eu des partenaires féminines principalement. Et ce lesbianisme avant la transition, il avait généralement une fonction, hein, qui était que, d'une certaine manière, c'était déjà une façon comme une autre d'essayer de s'affranchir de la catégorie de sexe qui avait été assignée, la catégorie femme. Et ça, c'est quelque chose qui a été pensé par des théoriciennes féministes qui ont travaillé sur le lesbianisme, notamment Monique Wittig, voilà, et plus récemment en France aussi, de manière très empirique, Natacha Chetkouti, hein, qui adopte largement l'approche de Wittig. C'est déjà, même si les personnes ne se le formulaient pas, les hommes trans comme ça, en fait, ce qu'ils disaient, c'était que pour la plupart, avant la transition, ce qu'ils me disaient, c'était que être une fille hétéro, c'était pas possible, impossible, que voilà, que ça, c'était vraiment inenvisageable d'avoir des partenaires masculins, pour beaucoup, pas tout le monde. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris qu'effectivement, c'était déjà une manière de... c'était déjà un petit peu le seuil de la transition, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ensuite. Parce que les choses changent. Une fois que, justement, la transition est en cours, eh bien... il n'y a plus le risque, finalement, de se sentir réassigné en tant que femme, justement, par l'hétérosexualité, par le fait d'être avec un homme. Une fois que la transition est engagée, eh bien, ça devient envisageable d'avoir des partenaires masculins. Et c'est d'ailleurs le cas, après la transition, pour un tiers d'entre eux, pour les personnes qui considèrent avoir terminé leur transition. Donc, c'est quand même intéressant qu'il y ait très peu de partenaires masculins avant, et puis que soudain, un tiers en déclare ensuite. Et pareil, pour les femmes trans, il y a des évolutions assez, assez importantes au fil de la transition.
Mais à parallèle à ce que tu viens d'expliquer.
Exactement.
Pour les hommes trans.
Exactement, parce que là encore, c'est une question de mobilité de genre, mais aussi de mobilité sexuelle. La mobilité de genre est toujours aussi une mobilité sexuelle. Bon. Et avant la transition, par contre, les femmes trans... on les trouve à la fois parmi les hommes hétérosexuels et parmi les gays. C'est ça qui est, c'est à peu près moitié-moitié, hein, en fait, statistiquement. Et dans les deux cas, finalement, l'homosexualité masculine comme l'hétérosexualité masculine, ces orientations ont pour fonction, d'une certaine manière, de garder une façade de masculinité. Donc, autrement dit, pour reprendre la phrase de Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais par contre, les gays restent des hommes. Ça, c'est moi qui rajoute la fin, c'est pas Monique Wittig. Mais du coup, finalement, c'est une manière de se protéger aussi des violences qui vont advenir aussi avec la transition. Il y en a qui essayent de gagner du temps. Par exemple, en se disant gay, ça permet de gagner un peu de temps, d'avancer dans les études, etc., pour pas être précarisé. Et ensuite, eh bien, ça change. C'est-à-dire que pendant la transition, en fait, on observe quand même très majoritairement une forme d'hétérosexualité féminine, hein, chez les femmes trans. C'est-à-dire que même celles, et c'est environ la moitié, qui étaient avec des femmes avant, uniquement des femmes, eh bien, la plupart vont avoir tendance, au moins pendant la transition, à avoir aussi des partenaires masculins, ou un partenaire masculin. Même si c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr. Mais c'est quand même une grande tendance. Et ensuite, par contre, les orientations vont se diversifier un petit peu.
Mais je reviens à ce que tu viens de dire, là, parce que pour les femmes trans, avoir un partenaire masculin va réaffirmer une position féminine.
Va l'affirmer, oui, enfin, effectivement.
L'affirmer, oui.
En fait, c'est ce que beaucoup me disaient, avec beaucoup de réflexivité. C'est ça qui est important aussi de dire. C'est que beaucoup me disaient, mais moi je suis féministe, ça me rend dingue de me dire que j'ai besoin d'être validée par un homme, quoi. J'en ai pas besoin, mais bon, je l'ai quand même fait.
Voilà,
il y en avait qui me disaient ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que, malgré ces évolutions-là, les femmes trans sont plus lesbiennes après la transition que les hommes trans ne sont gays. Il faut quand même le préciser. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les évolutions, les trajectoires, mais quand même, il faut le préciser d'un point de vue statistique.
Est-ce qu'il y a, encore une fois, dans l'étude que tu as faite, dans tous les gens que tu as, j'imagine, longuement interviewé, est-ce qu'il y a des personnes qui se définissent comme trans, c'est-à-dire qui n'éprouvent pas le besoin de dire qu'ils sont des trans, qu'ils sont des femmes ou des hommes, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'ailleurs, malheureusement, mais qui sont trans, voilà, comme
tout à fait
un genre nouveau, ou enfin voilà, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Il y en a. Il y en a. Alors, il y a plusieurs manières de se dire ou de ne pas se dire. Le terme de trans est employé par des personnes. Le plus souvent, c'est plutôt les termes de queer, non-binaire. Beaucoup, aujourd'hui, c'est plus ça, d'ailleurs. C'est un mot qui s'est un peu imposé au fil de ce travail, justement. Agenre, gender fluid, aussi, des mots en anglais. Bon. Et donc, il y en a. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de qui il s'agit, parce qu'il s'agit pas de tout le monde finalement, et là encore c'est important de voir les autres appartenances sociales des personnes, de qui il s'agit. Et la chose la plus flagrante, c'est que ce sont des personnes qui sont plutôt jeunes. C'est plutôt les jeunes. Donc on voit vraiment un effet d'âge et de génération. C'est que ce qui n'est pas pareil. Un effet de génération, parce que pour les jeunes générations, la fluidité de genre, c'est un peu plus rentré dans les mœurs, c'est plus médiatisé aujourd'hui, c'est, voilà, il y a une socialisation qui est pas la même du point de vue du genre. Et du point de vue de l'âge aussi, puisque la jeunesse, c'est l'âge des possibles, hein. C'est un âge où on n'a pas encore toutes les contraintes de la vie adulte, notamment professionnelle, administrative et tout ça. Donc c'est plus les jeunes. Ça veut pas dire que c'est que des personnes très jeunes, mais c'est plus quelque chose que moi j'ai trouvé chez les jeunes. C'est aussi un petit peu plus le cas chez les personnes les plus diplômées. Alors ça, c'est important de le dire aussi, hein. C'est souvent des personnes qui sont en cours d'études supérieures. Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose que qui n'est pas forcément spécifique, en fait, hein, voilà, à cette population là c'est-à-dire qu'on, par exemple, voilà, parmi les personnes qui font des longues études, on trouve plus de personnes qui se disent lesbiennes, gays, etc. Enfin, voilà, c'est des personnes qui vont plus se permettre d'assumer, voilà, la transgression finalement de l'ordre sexuel et de genre, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a plus parmi ces populations-là, plus diplômées. Hein. Attention, c'est juste que elles vont plus se permettre de le dire. Voilà, c'est une nuance importante. Et on en trouve un petit peu plus aussi chez les personnes qui ont initialement été assignées au féminin à la naissance. Moi, je l'ai interprété comme étant lié au fait que c'est pas si simple pour une personne qui a été éduquée comme une femme, qui a été voilà traitée comme une femme en fait, voire s'est identifiée comme ça, de se dire homme. Parce que ça, c'est comme dans les parcours d'ascension sociale, de transfuge de classe en ascension, ça crée souvent un petit peu de conflit intérieur, de tension, voire beaucoup, parfois. Et du coup, ça peut être pas facile de se dire homme.
Parce que l'homme parfois est perçu comme étant un oppresseur.
C'est jamais simple de rejoindre un groupe social qui est l'oppresseur de ce qu'on a été. Donc, c'est peut-être, entre autres, pour cette raison-là, qu'on trouve plus de personnes non-binaires, gender-fluides, parmi les personnes qui ont initialement, à la naissance, été assignées au féminin, et oui, qui en ont changé.
Mm-hmm. Dans ton bouquin aussi, tu fais une analogie entre transition de genre et migration. Mm-hmm. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus ?
Oui, ça, c'est pas de moi, pour le coup, c'est de Paul Preciado. Et du coup, c'est une analogie aussi que j'aurais pu. C'est une voie que j'aurais pu emprunter. C'est pas celle que j'ai choisie pour développer cette démonstration. Mais j'utilise aussi effectivement le terme de migration, de sexe ou de genre, parce que là encore, c'est parlant. Dans les travaux sur les trajectoires migratoires, on voit bien que ça soit une frontière sociale ou une frontière géographique, eh bien, on ne la franchit pas sans regarder en arrière. On passe pas d'un côté à l'autre et puis c'est fini, on change de vie. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment sociologiquement pas tenable. Donc, c'était une autre manière d'utiliser aussi ce terme, de le montrer, hein, de dire voilà que effectivement, eh bien, on emmène avec soi ses bagages, hein, de l'autre côté.
Alors, il y a de plus en plus de pays occidentaux, en tout cas, il y a eu des décisions concernant les papiers d'identité, où on a le droit où il n'y a plus que deux catégories mâles et femelles, parce qu'il y a toujours c'est toujours marqué voilà comme ça, mais où il y a neutre quelque chose comme ça. Est-ce que la solution serait pas carrément de supprimer complètement la mention de sexe sur les papiers d'identité?
Alors, il y a des réflexions là-dessus, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enjeux juridiques aussi autour de la transidentité, comme ça, ainsi que beaucoup sur la filiation, hein, par exemple. Effectivement, il y a des personnes, y compris des féministes, hein, qui peuvent s'inquiéter de cette volonté de supprimer totalement le sexe à l'état civil, puisque effectivement, introduire une catégorie neutre, c'est aussi rappeler que les deux autres ne le sont pas. Enfin, bon, c'est toujours un peu problématique, l'idée de troisième catégorie, voilà. Et ça peut être l'objet de discrimination, justement, si on a marqué neutre sur ce papier. Par rapport justement aux personnes qui s'inquiètent de cette suppression pure et simple et qui considèrent qu'on ne pourrait plus mesurer les discriminations envers les femmes, parce que c'est ça la crainte. En fait, il y a plusieurs choses qu'il faut dire peut-être. La première, c'est un argument sociologique, c'est que dans les enquêtes qui portent sur les discriminations et les inégalités femmes-hommes, en fait, on ne regarde jamais les papiers d'identité des gens. On leur demande de déclarer leur sexe. Jamais on ne va, on ne peut pas du tout aller voir les papiers d'identité des gens. C'est interdit. Donc voilà. Et du coup, ça ne changerait pas grand chose finalement. Bon. Peut-être que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sexe n'a pas toujours figuré sur les papiers. Et qu'en France, par exemple, il ne figure sur les documents d'identité que depuis le régime de Vichy. Ce qui n'est quand même pas très bon signe, hein, il faut le dire. Bon. Donc,
ça, j'ignorais complètement.
Quand on sait ça, on peut aussi s'interroger sur cette idée. Après, je pense que ce n'est pas demain la veille que ça arrivera. Mais c'est des réflexions qui sont importantes, bien sûr.
Oui. Alors, tu viens un peu d'y faire allusion en parlant de la crainte justement de certains groupes féministes, de la crainte de voir diluer l'oppression spécifique des femmes, etc. Bon, comme tu le sais, évidemment, il y a en ce moment beaucoup de polémiques sur les trans, donc polémiques parfois assez véhémentes, avec aussi des réactions véhémentes des groupes de défense des trans. Alors, dans les arguments qu'on entend, on entend beaucoup dire il y a une mode de la transsexualité. Voilà, c'est un des arguments qu'on lit souvent dans la presse. Enfin, voilà, il y a une mode, il y en a de plus en plus. Les jeunes veulent changer de sexe parce que c'est à la mode. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, à ce genre de...
Bon, c'est compliqué de répondre à ça, mais je dirais que en fait beaucoup de gens ont cette impression parce qu'il y a une visibilité médiatique et sociale qui augmente très fortement, notamment du fait des mobilisations collectives des trans, hein, qui s'organisent de plus en plus, qui sont de plus en plus institutionnalisées, même si encore pas trop. Donc ça donne cette impression aussi, médiatiquement parlant, hein, aussi. Donc il y a cette première chose. Et une deuxième chose, c'est une réflexion pour le coup plus sociologique, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de mode? C'est l'idée d'une influence, de certaines personnes qui viendraient via les réseaux sociaux en influencer d'autres, etc. Une sorte de panique un petit peu, voilà. Je dirais qu'en fait, du point de vue du genre, c'est quand même, comme de n'importe quoi finalement d'autre, c'est quand même un petit peu étonnant, sachant que les gens se construisent les uns par rapport aux autres. C'est la base du point de vue du genre, oui. Notamment. Oui. Enfin, je veux dire, les personnes qui ne sont pas trans, les garçons, les filles, etc., se construisent les uns par rapport aux autres et en opposition les uns aux autres. C'est relationnel, la construction de soi. Et des modes du point de vue du genre, bah, y en a quand même beaucoup. Donc, c'est infini. Voilà, en fait, les trans qui peuvent, les jeunes qui sont sur les réseaux, etc., c'est des personnes qui vont en aider d'autres à se construire ou qui vont entrer en conflit avec d'autres qui ne sont pas d'accord avec comment ils sont. C'est le même phénomène qu'on observe du point de vue du genre en général. Comme d'autres points de vue d'ailleurs.
Oui, oui. Bon. Alors aussi dans ces polémiques, on entend aussi beaucoup, on lit beaucoup dans certains journaux, et en particulier dans des journaux de droite, il faut bien le reconnaître, que on donne très tôt des traitements hormonaux à des enfants. Il y a ça dans ce fameux groupe féministe, qui est un groupe féministe qui revendique une définition biologique de la féminité, et ils ont tout un truc sur des enfants surmédicalisés, sujets à des traitements lourds, à un âge très tendre. C'est on entend ça aussi. Est-ce que c'est vrai?
À l'évidence, non. Après, moi, j'ai pas travaillé sur les très jeunes. Hein. Oui. Moi, j'ai travaillé que sur des personnes à partir de 18 ans. Donc, je peux pas m'exprimer empiriquement sur cette prise en charge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait bien longtemps que les jeunes sont pris en charge. Ça fait près de 70 ans que cette question est traitée médicalement, scientifiquement. Enfin, je veux dire, les jeunes trans, c'était même une catégorie spécifique dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, entre guillemets, parce que oui, c'est encore une condition pathologisée. Mais en tout cas, la découverte des jeunes trans, en fait, c'est absolument pas contemporain d'aujourd'hui, en fait. Donc il faut arriver à resituer un petit peu cette controverse dans une histoire plus longue. Pareil, la prise en charge des jeunes trans en France, ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est mis en place depuis un certain temps maintenant. Donc cette espèce de panique un petit peu morale autour de la prise en charge des jeunes trans, elle arrive à un moment où elle est un peu un argument pour visibiliser, je pense, plus généralement, des positions qui se prétendent féministes, mais qui, à mon sens, pour ce qui est des féministes, sont un petit peu problématiques en ce qu'elles renvoient toutes les femmes à la biologie dont beaucoup de femmes ont essayé de s'affranchir justement, y compris d'un destin reproductif, pendant des décennies de mobilisation. Donc c'est vrai que moi j'y vois un petit peu un paradoxe, quoi.
Oui, oui. Et il y a aussi, alors, l'un des arguments de cette panique morale, alors, c'est qu'il suffit de se déclarer femme ou homme pour exiger d'être reconnue comme telle. Alors, par exemple, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, voilà, alors il y a une personne qui, de toute évidence, est un homme, avec une... Enfin, je caricature, mais avec une grosse barbe ou je sais pas quoi, qui arrive quelque part en disant « je suis une femme », qui exige d'être considérée comme une femme et qui est prêt à casser la gueule de tout le monde. Cette critique étant qu'il suffit d'affirmer qu'on est ceci, alors une femme, un homme, voire même un chat ou un lapin, enfin, comme une espèce de possibilité d'auto-détermination strictement individualiste, délirante, quoi. On entend ça aussi.
Bon, on entend ça, mais bon, ce qu'on entend, des fois, quoi. Oui. C'est en fait pour avoir fait pour le coup une enquête empirique de sociologie. Bien sûr, ça n'est pas représentatif comme enquête, j'aurais tendance à dire que ça n'arrive pas ou quasiment pas, parce que moi, c'est pas ça que j'ai vu. Et c'est important de dire que cette question, encore une fois, de l'identité, de l'identification, de l'autodétermination, bon, c'est une chose. Ce qui est important, c'est les pratiques. Et ça, c'est important de le rappeler, effectivement, surtout quand on fait de la sociologie. C'est que moi, avec l'approche en termes de mobilité, d'espace social, etc., c'est un raisonnement qui, à la base, en sociologie des classes, est très fondé sur les pratiques, les aspects matériels. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré des féministes dites matérialistes. Qui résonne à partir des conditions matérielles d'existence. Donc moi, c'est ça principalement qui m'intéresse. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que les personnes s'identifient de plein de manières différentes, mais elles sont traitées d'une certaine manière qui correspond effectivement souvent à leur apparence et à leur papier d'identité. Et de ce fait, en fait, je n'ai rencontré aucune personne trans ou non binaire ou queer, etc., qui dirait que le genre, c'est une question juste d'identité, quoi. Parce que justement, c'est des personnes, et j'essaye de le montrer dans le livre, qui ont vécu tout un tas d'obstacles très concrets, très matériels, pour justement pouvoir vivre leur vie convenablement, même pouvoir faire des choses basiques du genre passer payer ses impôts, passer un concours, aller chercher un recommandé à la poste, pouvoir marcher dans la rue sans se faire agresser. Donc, c'est avoir un travail, bien sûr, un logement, enfin des choses fondamentales. En fait, moi, c'est ça que j'ai vu partout. Tout le temps sur ce terrain-là. Ce sont des choses matérielles, pratiques. Alors, les questions d'identité et de personnes qui, justement... Ça arrive, bien sûr, en début de transition, que les gens soient lus d'une manière et qu'ils ne s'identifient pas comme ça. Mais non seulement, déjà, ça dure généralement pas si longtemps que ça, surtout, c'est... vraiment très anecdotique, et encore une fois, c'est quelque chose qui est brandi, je pense, par des personnes qui militent contre les trans, les discriminent, les violentent, etc. Pour défendre une cause qui à mon sens est fondamentalement transphobe, en fait. Quand je dis transphobe, ça veut dire indirectement aussi sexiste, parce que si la transphobie existe, à mon sens, c'est uniquement parce qu'on vit dans un monde patriarcal et sexiste.
Il y a d'ailleurs, enfin, pour moi, un gros paradoxe dans ces critiques. On a aussi, je fais une petite aparté, on a beaucoup entendu ça au moment de la manif pour tous et tout ça, ouais. En disant il y aura, comme s'il y avait une peur de l'indifférenciation entre les sexes. On a l'impression, mon Dieu, mais on ne saura plus reconnaître qui est un homme et qui est une femme. Et pour moi, cette peur est totalement paradoxale. Parce que, en exprimant qu'il pourrait y avoir une indifférenciation, justement, ça souligne le fait qu'eux-mêmes ne croient fondamentalement pas à l'essence absolument permanente de la division sexuelle.
La médecine elle-même n'y croit pas. C'est intéressant de se pencher sur ce qu'on appelle les science studies, les études sur les sciences, en fait, et notamment, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, du coup, c'est la critique féministe des sciences, ce qui est un courant d'études de 50 ans maintenant, et notamment sur le fait que la médecine, en fait, n'a jamais finalement réussi à faire rentrer tous les individus dans les deux cases qu'elle a elle-même contribué à créer, et que le sexe en médecine, ce n'est même pas juste un facteur, c'est plusieurs. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on a compris que le sexe, c'est trois choses en médecine. C'est l'apparence des organes génitaux, mais c'est aussi des taux hormonaux et des chromosomes. Et les taux hormonaux, c'est des taux. Donc, ça rejoint aussi le fait qu'on a pu démontrer dans les années 70 que les races n'existaient pas biologiquement parce que c'était lié à un taux de mélanine qu'on portait. Et que, par définition, ça n'était pas binaire, un taux. Donc, c'est quelque chose qui, même en médecine, en fait, est établi. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de personnes qu'on nomme intersexes, par exemple. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, en réalité. Où on n'arrive pas trop à déterminer avec ces trois facteurs, en fait, ou les classer. Mais on essaye, malgré tout, coûte que coûte, de le faire. Or, ça ne correspond pas à la réalité des corps. Biologiquement, même. Voilà.
Donc, oui, on peut... On peut dire, est-ce que tu dirais qu'il y a un continuum ou qu'en fait, il y a une impossibilité, enfin comme dans ces jeux où on doit mettre des jeux d'enfants, où tu dois mettre des pièces dans des trous, ça ne rentre pas, quoi.
Qu'il y a des... À la fois, moi je suis pas médecin, d'un point de vue sociologique, effectivement, il y a différentes configurations de genre. Et à mon avis, d'un point de vue biologique aussi, d'après la critique féministe des sciences, et beaucoup de travaux, y compris de biologistes, il y a aussi des configurations corporelles, sexuées, qui ne rentrent pas dans deux catégories.
Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la situation des trans en France? Qu'est-ce qui reste à accomplir? Qu'est-ce qui reste à faire pour que ça soit... moins compliqué.
Il y a eu des évolutions du droit récemment, Bon, il y a un critère de discrimination maintenant, qui est l'identité de genre, qui existe depuis 5 ans maintenant. Les trans peuvent désormais aussi, depuis 2016, changer d'état civil sans avoir à faire des modifications corporelles. Donc ce sont des avancées. Maintenant, une des choses qu'il faut savoir, c'est que les représentations évolue moins vite que le droit parfois, hein. Ça veut pas dire que les trans ne sont pas discriminés, violentés encore, voilà, toujours et altérisés de manière générale. Et un des chantiers actuels qui est vraiment là, on est vraiment dedans, notamment d'un point de vue juridique, c'est la filiation, puisque effectivement, pour les personnes trans qui, les hommes trans qui portent leurs enfants et les femmes trans qui procréent avec leurs compagnes et leurs propres gamètes, eh bien, ces personnes trans ont de grandes difficultés à établir leur filiation avec le système actuel qui compte uniquement deux branches, paternelle et maternelle, sachant qu'on devient mère par l'accouchement en France, voilà, et père par présomption ou reconnaissance. Donc c'est tout un chantier pour repenser les termes de la filiation.
Je vais te poser une dernière question, parce que le temps passe. Tu écris, il ne s'agit pas de rêver à un moment dans lequel le genre n'existerait plus et dans lequel il existerait autant de genres que de personnes. Ce n'est pas parce que les frontières sont mobiles qu'elles disparaissent pour autant. Tu écris encore, le problème principal de ce discours est qu'il désarme la critique de la domination masculine. Tu peux nous expliquer ?
En fait, quand je dis ça, c'est simplement que j'essaye de mettre en garde contre un discours très, à mon sens, trop libéral, qui consiste à dire oui, maintenant il y a plus de genre, il y a des gens qui parlent qui disent que voilà, ça y est, le patriarcat c'est fini, que ça y est, les féministes ont fait la révolution, que c'est bon, c'est terminé, il y a pas de souci, on peut être tout ce qu'on veut être. Moi, je pense pas qu'on puisse effectivement. Bien sûr, c'est une utopie. J'aimerais y croire, je veux y croire, mais je pense malheureusement pas que ça arrivera. Je pense que effectivement, les individus sont encore de tout un tas de points de vue différenciés, hiérarchisés, hélas, et que ce discours libéral, en fait, peut saper un petit peu les fondements des luttes féministes et trans, du coup, puisque, en fait, de fait, il y a encore énormément d'obstacles, de difficultés, de violences, de discriminations, etc., pour les femmes et pour les trans. Donc c'est une mise en garde contre ce discours un petit peu trop libéral, à mon sens, que j'essaye de faire passer avec ça. Oui. Avec ça.
Merci. Merci Emmanuel.
Merci Emmanuel.
Merci à vous.
Merci Frédéric.
Oui, merci Frédéric. Et merci à nos auditeurs de prendre le temps de nous écouter.
S'est écrasé contre l'éternité dure. De son sang sucré, je suis né
moi le berger de parole, mon pays, c'est le pays des pèlerins. Mon pays, c'est un ruisseau vagabondant qui va son chemin d'ivrogne entre la montagne et la mer. Mon pays,